comme Nicolas, je vais lutter contre le temps moi aussi et je vais essayer donc de revenir sur des problèmes dont vous allez voir d'ailleurs qui sont très très souvent communs aux questions épistémologiques qui ont été soulevées à l'instant par Nicolas. Bon, c'est un immense sujet qu'on m'avait demandé de traiter ce matin. J'ai été obligé de le couper de façon à la hache, la fameuse grande hache de l'histoire, bien entendu. Et donc, je rentre directement dans le vif du sujet. Je vais essayer de parler d'abord des questions qui tiennent au comportement collectif. Alors là, je suis un peu ennuyé parce que c'est vrai que c'est ma spécialité. En même temps, je suis donc jugé parti et je ne suis pas sûr d'être parfaitement neutre sur cette question-là. Je parlerai ensuite donc des problèmes que pose la mémoire de la résistance, parce que je crois que c'est un des grands enjeux à l'heure actuelle, dans le cadre bien entendu des affrontements mémoriaux autour de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas la chance, nous, il faut le dire, malgré tout ce que vient de dire Nicolas à l'instant, d'avoir une école de Péronne. C'est-à-dire qu'en fait, le débat existe, mais il est complètement bloqué, il est étouffé, il est masqué, et je crois que ça fait partie aussi des énormes difficultés d'avoir des idées à peu près convenable sur ce sujet. Et enfin, dans une troisième partie que j'espère la plus longue possible, enfin la plus longue possible, je vais dire dans le temps, excusez-moi, je voudrais tenter de vous proposer un certain nombre de thèmes de réflexion, donc sur les problèmes que posent justement ces enjeux mémoriels de la Seconde Guerre mondiale à travers surtout Vichy et la résistance. Alors, je rentre directement le problème des comportements. Bon, il est au centre des enjeux mémoriels de la Seconde Guerre mondiale. On a énormément travaillé sur cette période, sur Vichy, etc. Mais quels que soient les sujets que l'on aborde, inévitablement, à un certain moment, on revient sur la fameuse question, qu'est-ce que les Français ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., etc. C'est absolument permanent. Et il y a un formidable décalage entre la certitude relative, bien entendu, comme toujours en histoire, d'un certain nombre de données qui portent sur le régime, l'État, son fonctionnement, les pratiques antisémites, etc., etc. Et puis, en revanche, un vide énorme sur ce que les Français ont pu être, parce que c'est un sujet complexe, et cela rejoint exactement tous les problèmes qui viennent de nous poser Nicolas Lestang. Il reste que c'est pourtant sur ces sujets-là que l'on trouve les jugements les plus nets, les plus catégoriques, les plus définitifs. Voilà. Et là, il y a donc déjà cet extraordinaire contraste, alors que tous ceux d'entre nous qui avons travaillé sur ce sujet-là, nous savons qu'on ne peut pas parvenir sur un sujet comme ça, sur des questions tranchées, sur des réponses tranchées. Il y a donc ce premier problème et la mémoire. Et c'est à la fois donc son immense succès, et les journalistes adorent la mémoire, bien entendu, c'est qu'elle permet de laisser croire qu'on peut avoir, sur ces sujets-là, des idées qui tiennent la route, alors que, comme vient de dire Nicolas Lestang, elle ne repose souvent que sur des constructions et sur des représentation. C'est un premier point, mais il me semble très très important. Or, je vous fais grâce, je voulais le faire, mais vraiment, je n'aurai pas le temps, des rappels sommaires donc qui tiennent à ce qu'a été l'évolution de la mémoire sur les comportements. En gros, vous le savez tout, d'abord on a dit, mais il faudrait là encore prendre énormément de précautions, que les Français avaient été enfermés dans une vision résistentialiste, le fameux mythe résistentialiste qui pose des problèmes absolument considérables. Je n'aurai pas le temps d'en parler à fond, mais dans la discussion, tout à l'heure, on pourra éventuellement revenir là-dessus. Et ensuite, vers les années 1970, donc, on est passé complètement de l'autre côté, c'est le balancier, à la suite à la fois des convergences qui tiennent à un film, Le Chagrin et la Pitié, à l'œuvre de Paxton. Bref, on est tombé ensuite, au contraire, dans une seconde vision, qui était celle, eh bien, d'un peuple, disons-le, lâche, veule, qui avait le ventre à la place du cœur et de la tête, etc. Enfin, j'exagère à peine, hein, quand on relit ce qu'a été, donc, la perception et la représentation de ce qu'était la prétendue société française sous Vichy dans les années 70-80, on est absolument effaré avec le recul de lire ce qu'on avait écrit à ce moment-là. Alors, le balancier s'est très, très légèrement, je dis bien très légèrement, remis, non pas vers le milieu, mais vers quelque chose qui se rapproche du milieu, mais avec quand même énormément de problèmes. Bon, je prends un exemple, il y a un film qui passe en boucle à la télévision, c'est celui de Patrick Rodman, qui s'appelle « Été 1944 », que beaucoup de gens considèrent comme le nec plus ultra en matière de réflexion sur justement ce qu'a été la société française pendant cette période. Et beaucoup d'historiens, y compris les plus prestigieux de cette école qui n'existe pas, mais qui est, je peux vous le dire, un lieu de pouvoir extrêmement important et qui se situe à l'Institut d'études politiques, à Sciences Po, dans la revue L'Histoire, dans la revue XXe siècle, enfin bon, Nicolas Souris voit exactement ce que je veux dire, et qui sont des gens qui agissent donc d'une façon extrêmement efficace et qui font exactement comme l'a fait Perron, non pas du marketing, mais qui font peser une certaine vision des choses qu'ils arrivent à persuader et à faire passer comme une évidence. Et ça, c'est le point fort. Et dans ce climat-là, donc, Patrick Hordeman, par exemple, pose comme paradigme de départ de son film, je répète, repris sans arrêt et présenté comme quelque chose d'absolument remarquable, eh bien, la France entre 1940 et 1944, c'est 100 000 collaborateurs face à 100 000 résistants et au milieu, une masse amorphe, inerte, passive, etc. Et ceci passe comme une lettre à la poste, comme une évidence, alors que c'est quelque chose qui, bien sûr, historiquement, ne tient absolument pas la route, qui en plus écrase complètement la chronologie, etc., etc. Enfin, la critique est tellement facile que ce n'est pas la peine, je pense que je m'y attarde. Mais en tout cas, c'est autour de cela que existe encore dans cette vulgate, on va dire, cette vulgate mémorio-médiatique, hein, je ne dis pas historique, mais le problème, c'est la confusion qui existe quand même, c'est-à-dire que certains historiens semblant légitimer ce type de film ou ce type d'action, même si on est dans le domaine des médias, il y a donc là une énorme confusion. Alors, cette vulgate, elle est... C'est vrai qu'en même temps, on y trouve quelques variables, quand même, selon les historiens, les uns et les autres. On voit que certains... Oui, c'est pas tout à fait aussi simple. Les choses ont pu changer avec le temps. Il reste quand même qu'il y a un certain nombre de données de base, si vous voulez, que l'on repère. D'une part, le fait que les engagements dans ce pays se sont limités à deux minorités, et parfois deux infimes minorités, et qu'elles sont à peu près égales. Ce qui pose des problèmes absolument considérables. Ça rejoint exactement ce que disait Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire, si on est effectivement au niveau des mots et des idées, ça marche. Si on est au niveau des pratiques, ça ne marche absolument plus. Parce qu'il y a une différence, que je dois dire tout de suite, quand même, qui est absolument fondamentale, et c'est là un des grands scandales, c'est que dans un cas, nous avons effectivement une minorité, celle des collaborateurs, mais qui n'a absolument aucun lien réel avec le corps social, qui est complètement marginalisé. On ne trouve pas d'exemple, sauf de façon absolument rarissime, d'actes de solidarité complice qui se manifestent spontanément à l'égard de ce groupe des collaborateurs. En revanche, de l'autre côté, nous avons aussi effectivement une petite minorité, si on s'en tient à un critère quantitatif, ce qui pose encore d'énormes problèmes. Mais même si on s'en tient là, si on joue le jeu, on se rend compte que la place de cette minorité dans la société française est complètement différente. Puisque là, même si les gens ne prennent pas les arbres, il reste que par des millions, je dis bien des millions de petits gestes anonymes et de petits gestes complices, ils montrent qu'il n'y a pas marginalité, mais que donc cette résistance, elle n'est pas isolée du reste de la nation, dans le sens où la seconde nous a le cas, mais elle fait partie d'un processus qui lui-même est en mouvement. Et donc la grande duperie, l'imposture fondamentale, elle est là. C'est le fait qu'on prend deux minorités fondées exclusivement sur leur appartenance quantitative, sur le nombre de gens, et qu'à partir de là, on en tire des conclusions qui sont complètement fausses. Donc encore, pratique, une fois, je crois que c'est absolument la même chose, pratique sociale d'une part, et au contraire, construction théorique de l'autre. Donc il y a là cette énorme duperie pour moi, en tout cas je suis violent peut-être, excusez-moi, je le dis tout à l'heure, je crois, parce que je suis scandalisé chaque fois que j'entends ce genre de choses, et scandalisé de voir que certains de mes grands copains qui sont historiens acceptent d'être dans des débats où ces choses-là sont dites et ne disent rien, c'est-à-dire laissent légitime en quelque sorte, par leur présence, même si elle n'est pas forcément active, des choses dont ils savent au fond pertinemment qu'elles ne sont pas justes, mais on est obligé de poser la question, pourquoi ne disent-ils rien? Pourquoi ne font-ils rien? Pourquoi laissent-ils croire toujours ces dégâts? Et ça, c'est une question sur laquelle on pourra revenir. Bon, donc voilà ce que je voulais dire sur ces facteurs. Cette vulgate, bien sûr, elle résulte de très très nombreux facteurs. Alors, exactement comme tout à l'heure pour le problème du consentement, j'ai été affronté moi-même, Nicolas le sait, à l'école des études quand j'ai voulu dans mon séminaire faire venir des gens qui donnaient ces points de vue contraires, et on a absolument les mêmes problèmes. En fait, on se rend compte, cette vulgate, elle n'est pas bien sûr, je ne pense pas du tout, qu'il y ait quelqu'un qui tire des ficelles derrière et qui a voulu construire une mémoire comme ça pour essayer de culpabiliser les Français, c'est pas du tout ça. Mais donc, c'est le croisement de très très nombreux facteurs. Alors d'une part, c'est vrai qu'il y a le résultat de cette fameuse culture décapante qui a été celle d'après 68, à savoir en gros, et c'est ma génération, je sais très bien ça, on nous a menti, on ne fait que nous mentir, on a la marre d'entendre des balivernes. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Le Chagrin et la Pitié, comme certains de vous sans doute, et j'étais jeune prof à la fac à ce moment-là, je me rappelle très bien, eh bien, j'imposais à tous mes étudiants de voir Le Chagrin et la Pitié. Pour moi, c'était une libération extraordinaire. 20 ans après, 30 ans après, même, je me dis que j'ai dit d'énormes bêtises, parce que j'avais marché moi-même. Et là encore, je crois que c'était un problème de culture, du temps, effectivement. Et ça a été une vraie libération, même si maintenant, je sais qu'en fait, ce film est souvent à la limite lié aussi de l'imposture. Bon, bref, en tout cas, ça a été un choc à ce moment-là. Il était nécessaire parce que on en avait par-dessus la tête, c'est vrai, d'entendre des balivernes. Bon, il y a eu donc ce choc du film, ce besoin de iconoclaste de te remettre encore, pas tout, en tout cas, beaucoup de choses sur lesquelles on essayait de fonder notre identité. L'importance de Paxton. Je n'y reviens pas, même si Paxton, qui a dit des choses absolument remarquables, fondamentales, et sur lesquelles personne ne peut revenir, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont Paxton a été instrumentalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a retenu de lui surtout ce qu'il disait sur les Français, en, je mets des guillemets, collaborateurs fonctionnels, c'est le terme de Paxton, et on a mis essentiellement cela en avant, alors qu'en fait, l'œuvre essentielle de Paxton ne porte pas là-dessus, elle porte sur ce qu'a été le fonctionnement de l'État en tant qu'État, etc. Bon, donc l'importance de Paxton, le ressentiment exprimé par la mémoire juive à ce moment-là, qui a joué un rôle absolument fondamental, ce ressentiment à l'égard de la France, s'ajoutant donc à tout ce qu'il pouvait y avoir dans cette volonté de gratter sur ce qui faisait mal. Bon, ensuite, il y a eu aussi, et ça a été, je crois, une sorte de bévue de la période, la redécouverte du témoignage, de la parole. Après 68, enfin, certains de vous s'en souviennent peut-être, il suffisait que quelqu'un parle pour immédiatement, donc il fallait qu'on soit tous prosternés. Enfin, la vérité sortait par rapport à celle citoyenne qui cachait, mentait, trompait, etc. Il y a eu donc une fascination extraordinaire du témoignage, de la parole, avec un manque d'esprit critique absolument effarant. Et je le dis avec simplicité, Philippe Joutard, qui est un de mes copains, de mes très vieux amis, qui a été lui aussi un de ceux qui a écrit Jean Scott, était lui-même fasciné par ça. Je me souviens très bien, à Aix-en-Provence, par exemple, des séance autour des femmes, autour des histoires de famille, autour de la guerre, qui était absolument ahurissante sur ce monde d'esprit. Bon, tout ça donc, je pense, a joué. Il y a eu aussi, c'est vrai, la fascination intellectuelle que nous avons tous eue, et moi le premier, bien entendu, pour ce phénomène de la mémoire, ce phénomène des représentations, avec tous les excès que peut provoquer chaque fois, donc, cette fascination pour des constructions, tout d'un coup, qui sont nouvelles et qui nous aident à penser autrement, mais qui nous font parfois perdre de vue un peu aussi les bases de la pensée antérieure, qui pourtant était absolument indispensable. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que ce règne de la mémoire, en quelque sorte, a d'autant plus de succès, il va tout à fait dans le sens donc de ces marketing dont parlait tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire qu'en fait, il fascine les journalistes et dont les gens qui sont proches par leur culture de ce temps, parce que il est très proche du langage médiatique. On est dans le langage médiatique. On juge, on coupe, on tranche, etc., etc. Le nombre de fois, quand, je pense que ça a dû t'arriver toi aussi, quand on rencontre des journalistes et qui posent systématiquement comme première question, alors les Français, collaborateurs ou résistants? Mais ça, enfin, moi j'ai entendu ça 50 fois au moins. Alors je leur dis chaque fois, ça commence mal. Enfin bon, voilà. Mais il reste que, on a beaucoup de mal à les faire sortir de cette vision des choses. Il faut absolument cataloguer les gens, les catégoriser, les faire entrer dans des tiroirs, etc., etc. Et tout ça va donc dans le sens qui fait que cette mémoire, elle a un succès tout à fait extraordinaire. Je répète, fortement relié par le langage médiatique. Enfin, c'est vrai aussi que des gens ont dit, moi je constate simplement, que la façon dont on pouvait penser ce qu'avait été la France pendant la Seconde Guerre mondiale était un élément constitutif de l'identité française. Alors on peut en discuter à perte de vue, mais c'est ainsi, et c'est ressenti ainsi. On pense la France et on pense les Français, et à l'étranger, c'est particulièrement vrai. Quand on va, par exemple, en Israël, ce qui m'est arrivé deux fois, je suis frappé chaque fois, on a l'impression que c'est là le cœur de toutes les choses et que tout s'organise, que l'identité, dans l'image en tout cas, la représentation que les gens se font de nous, elle passe d'abord par ça. Et je peux vous dire que ça repose alors là sur des stéréotypes et sur des pensifs qui sont encore pires que les autres. Enfin, ça encore, c'est un autre sujet, je ne l'aborderai pas. Bon, donc, il y a eu cela. Mais ce qui est important, je répète, c'est cette espèce de fusion-confusion entre mémoire et histoire, entre journaliste et historien. Et en France, il y a un livre, donc, Là je reviens à l'histoire, qui est sorti en 1995, et j'en parle avec précaution, parce que c'est exactement, donc, sur mon domaine, c'est le livre de Philippe Burin, donc, qui est sorti en 1995. Bon, le mien sur l'opinion française était sorti en 1990, mais c'était ma thèse, que j'avais faite quelques années avant, et donc, son livre sort en 1995. Alors, je dis ça, je veux dire avec humour et sans amertume aucune, mais c'est intéressant de voir, par exemple, que dans les bibliographies Alors, je suis gêné de dire ça parce que c'est l'air de dire, la Borie nous fait son numéro, bon, il rentre dans le camp des victimes et des pleureuses. Bon, non, c'est pas du tout ça, mais je vous assure, vraiment, je dis avec humour, Nicolas Boucollet, je pense qu'il pourra en témoigner. Bon. Mais avant, par exemple, dans les bibliographies, en particulier, je pense à celle de Jean-Pierre Azéma, toujours fait des bibliographies, disant, voilà la bibliographie de l'honnête homme, c'est ce qu'il faut avoir. Et avant, Pierre Laborie avait la chance de figurer dans les fameuses bibliographies sommaires. Après 1995, bizarrement, Laborie passe à la trappe, et vous pouvez le voir en particulier dans la fameuse bibliographie qui avait été faite pour la Grecque il y a trois ou quatre ans maintenant. Donc, et tout d'un coup, c'est maintenant Philippe Burin, donc, qui est considéré comme la somme fondamentale absolument sur ce qu'il faut savoir, ce que la France a été et ce que les Français ont été. Et son livre s'appelle « La France à l'heure allemande », vous le connaissez sans doute, et effectivement, Philippe Burin dit que son but, son objectif, c'est de décrire méticuleusement ce qu'ont été les comportements des Français face à l'occupation, etc., etc. Bon, alors, je ne vais pas me lancer dans une critique systématique de Philippe Burin, mais enfin, son livre pose quand même de très gros problèmes, et je le dis historiquement parlant. Aïe, aïe, bon. Oui, je suis... D'accord, mi-temps, alors je vais encore aller plus vite. Alors, nous parlerons plus tard de l'accommodation, donc, et des formes d'accommodement, qui sont le fondement théorique de l'argumentation de Philippe Burin, mais qui, en dehors de toute polémique, pose sur le fond des problèmes absolument considérables. Je passe donc là-dessus. Alors, j'en arrive maintenant à ma seconde partie, qui va être encore plus courte, donc, par nécessité. Mais vous voyez, vraiment, c'est un discours absolument impossible que nous tenons ce matin, parce que c'est trop compliqué pour aller vite, mais enfin, je vais essayer quand même. Sur la résistance, bon, sur la mémoire, pardon, de la résistance, je ne vais pas encore rappeler tout ce qui ont pu être ces aléas. Je dirais simplement que la question majeure, me semble-t-il, autour de ce problème de la mémoire résistante, c'est celle de son statut historique à l'heure actuelle dans cette vulgate mémoriale, englobante, hein, parce que quand on parle des comportements des Français, j'ai dit tout à l'heure avec ces deux minorités, on renvoie inévitablement à ce qu'ont été aussi le rapport des Français à la résistance pendant la période de la guerre et ensuite au lendemain de la période de la guerre. Quand on regarde les choses de près sur la manière dont cette vulgate mémorielle de la résistance s'est instaurée, on constate quoi ? On constate que l'idée de résistance ou le phénomène de résistance en tant qu'événement, si vous voulez, a été soumis à un traitement de recyclage, en quelque sorte, qui tourne autour de quelques grandes idées. D'une part, un traitement de réduction. La résistance est réduite de plus en plus, dans cette perspective-là, donc, à un traitement quantitatif. On ne cesse d'insister sur la faiblesse d'effectifs, 1% de la population, 2% maximum, etc., etc. Ensuite, on met l'accent sur son efficacité militaire, pour dire qu'elle est d'ailleurs inefficace. C'est-à-dire qu'on la juge essentiellement en fonction du rôle qu'elle a pu jouer, donc, dans la libération de la France. Elle est réduite ensuite à quoi encore ? Elle est réduite à des affrontements politiques. Et tout ce qui a été fait dans les années 1996-97 autour de Jean Moulin, ça vous renvoie sûrement à des choses que vous avez encore en tête, on avait l'impression, autour de l'énorme battage qui était fait à ce moment-là, que les résistants étaient des gens qui n'arrêtaient pas de se faire des crocs en jambes, de régler des comptes entre eux, donc une résistance réduite à des affrontements politiques de guerre des chefs, en plus, parce que on ne parlait que du sommet. On ne parlait absolument pas, bien sûr, de ce que pouvait être l'assise sociale. Donc, il y a eu ces phénomènes de réduction. Deuxième chose, des phénomènes d'identification qui ont été liés à la résistance. Elle a été identifiée, je viens de dire à l'instant, à son instrumentalisation politique. Et à la fois, le fait, effectivement, que le Parti communiste, d'une part, avait son fameux parti des 75 000 fusillés, complètement faux, bien entendu, mais ça, tout le monde le sait, ou le gaullisme, d'autre part, ont tenté de fonder leur légitimité sur l'appropriation donc de ce qu'avait été la résistance. Identification, encore une fois, aux bavures de l'épuration. Et entre autres, je le dis, mais je vais le redire tout à l'heure, moi je vois dans les manuels scolaires, dans ce terme d'épuration sauvage, qui est maintenant conceptualisé et pris en compte comme s'il était la manière de résumer ce qu'a été la partie de l'épuration dont les résistants sont responsables, et qui pose d'énormes problèmes. Enfin, il faut quand même le savoir, ce terme vient de l'extrême droite au lendemain de la guerre et qui avait pour objectif de justement discréditer complètement ce qu'était la résistance. Ce sera d'ailleurs la même chose pour le terme de résistentialisme qui lui aussi vient de l'extrême droite et qui vient des gens qui, au lendemain de la guerre, ont tenté complètement d'éliminer les résistants. Il y a un livre célèbre de l'abbé Desgranges qui s'appelle « Les crimes masqués du résistentialisme ». On a donc deux concepts, là, je gagne du temps sur ce que je dirai après, qui sont maintenant intégrés dans les manuels scolaires comme étant les éléments intellectuels à partir desquels on va juger quelque chose et qui sont considérés comme des choses qui vont de soi alors qu'ils ont une charge idéologique, historiquement parlant, en tout cas extraordinairement lourde. Et moi, ça me stupéfie, je le dis franchement. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a, bon, on dit aussi, et c'est ce que disait mon cher copain Rousseau il y a encore quelques temps dans l'Express, qu'on vient de sortir un dictionnaire historique de la résistance qui vaut ce qu'il vaut, c'est un énorme travail, c'est une somme absolument considérable, mais c'est quand même 4 à 5 ans de boulot par des gens qui ont travaillé et qui ont fait ça avec sérieux, même si, comme dans toute œuvre de ce type, eh bien, les résultats sont inégaux. Silence radio partout. Enfin, on n'en a absolument pas parlé. Ça a été le silence total. Le Monde a fait un tout petit article, vraiment au service minimum. Libé, pareil, hein, je ne donne pas les noms des gens qui ont fait l'article, mais enfin, ceux que ça intéresse pourront regarder. Et là, on voit ce fameux non-école de Perron, mais qui existe quand même et qui fait que, comme par hasard, on n'en parle pas. Alors que quand on voit les réactions de la presse provinciale, au contraire, là, on voit des vraies réactions. On voit bien, donc, en fait, les réactions des gens ne se font pas uniquement en fonction de l'intérêt présumé des choses, mais en fonction, quand même, de ce qui est censé porter les éléments qu'ils considèrent, eux, comme absolument déterminants dans la façon dont on doit amener les gens à penser ce qu'a été l'histoire de ce pays. Et on se rend compte, donc, que nous sommes dans, encore une fois, dans des lieux, comme disait Bourdieu, où les rapports symboliques de pouvoir jouent un rôle absolument fondamental. Bon, il y a en réduction, identification, dénaturation de l'idée de résistance, c'est un phénomène particulier. La résistance est un événement particulier, singulier. Je ne dis pas qu'il s'est produit dans le temps. Si on voit la longue durée, on voit bien d'autres phénomènes comparables. Enfin, en tout cas, il a une certaine singularité. Cette singularité, on cherche à la nier par tous les moyens. Et donc, moi, j'ai fait plusieurs articles là-dessus. J'en parlerai, si vous voulez, tout à l'heure. Mais enfin, en tout cas, je donne simplement. Et la notion de résistentialisme qui est pratiquement maintenant associée, on ne parle plus de résistance quand on aborde sur la mémoire, sans renvoyer à cette notion de résistentialisme. Mais cette notion pose des problèmes absolument considérables, d'autant que parfois on y ajoute mythe résistentialiste. Donc cette fusion qui est faite là, eh bien, je crois, nous oblige à revoir toutes ces choses avec critique. J'en viens à ma troisième partie parce qu'il me reste encore combien de temps? 10 minutes à peu près? Un petit peu moins. Bon. Pour essayer de vous proposer donc quelques thèmes de réflexion, enfin. Alors, je vais reprendre ce plan très rapide que j'ai essayé de suivre. D'une part, sur les comportements. Bon. La mémoire, disons, la vulgate mémorielle, enferme tout ce qui touche au comportement collectif des Français dans des cadres absolument, je n'ose pas dire simplistes, mais en tout cas dans des explications univoques. Et qui en plus entretiennent des confusions. Or, je le dis de façon absolument catégorique, on ne peut absolument pas aborder ces questions-là, y compris d'ailleurs avec des élèves, si on veut en rester dans le noir et blanc. Pour dire les choses de façon simple, si vous voulez, tout ce qui n'est pas action contre l'occupant n'est pas complicité avec l'occupant. Or, dans beaucoup, en particulier dans le jugement de la mémoire, eh bien, il y a systématiquement cette notion passivité égale complicité. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on retombe sur les pratiques, comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est exactement le même phénomène. On voit que ça ne se passe pas ainsi. Tout ce qui n'est pas non plus refus de soumission à l'occupant n'est pas pour autant de la résistance. Des choses simples à dire, mais qui sont absolument, quand on les a mises au clair, un réfractaire du STO qui reste réfractaire du STO n'est pas un résistant. Et pourtant, il est dans une attitude d'insoumission par rapport à ce qu'est l'ordre vichiste, l'ordre nazi à ce moment-là. Le cardinal Saliège, qui n'était pas cardinal, qui était archevêque à ce moment-là, de Toulouse, qui fait dans sa fameuse lettre pastorale dénonçant les persécutions des Juifs, eh bien, le fait, mais il n'est pas pour cela un résistant, etc., etc. Enfin, donc, il faut accepter d'entrer dans le domaine de la complexité et de sortir de ces visions complètement simplifiées de la situation. Donc il faut, au contraire, accepter, il me semble, y compris avec les élèves de classe terminale, d'amener l'utilisation d'autres concepts qui permettent un tout petit peu d'appréhender ce que peuvent être les outils à travers lesquels les historiens vont tenter de penser ces phénomènes. Alors, on retrouve exactement ce que Nicolas a dit tout à l'heure. Par exemple, les stratégies d'esquive. Moi, j'appelle ça les stratégies de contournement, mais c'est absolument la même chose. Donc, le pensée double. J'ai écrit un article sur le pensée double dans un livre, justement, qui rendait hommage à Paxton. Et moi, j'ai voulu me démarquer un peu et j'ai parlé. Les gens arrivent, sont obligés, d'abord. Il y a une véritable culture du double à ce moment-là. On la voit même dans le langage. Quand j'avais travaillé sur la revue Esprit, par exemple, c'est intéressant. On se rendait compte, cette revue, d'ailleurs, dont on peut contester le fait qu'elle ait accepté de paraître sous Vichy jusqu'en 1941, mais même à ce moment-là, ces gens utilisaient une forme de langage codé qui faisait que leurs lecteurs au moins savaient qu'ils étaient en train de dire des choses qui n'étaient pas lisibles au premier degré, mais qui, en fonction de la culture du temps, leur permettaient de voir ce qui était dit. Mais c'était tellement compliqué que à la fin de la guerre, en 1944, les rédacteurs même d'Esprit, relisant eux-mêmes les numéros qu'ils avaient sorti dans 1940-41, était dans l'incapacité de retrouver ce qu'ils avaient voulu dire à ce moment-là. Oui, mais c'est quand même très important, ça veut dire qu'à un certain moment, la culture environnante prend le pas, justement, sur les idées à travers lesquelles ensuite on tente d'expliquer ce qu'a été, et que si nous, historiens, nous faisons l'impasse de ce qu'a été ce qu'ont été ces modes de pensée et ces modes de sensibilité, on fait des erreurs absolument considérables. Et on est dans un anachronisme total. Et le pire des anachronismes, c'est-à-dire l'anachronisme mental. Hein. Et là, je ne fais que redire ce que Marc Bloch a dit et Lucien Febvre ont dit bien avant moi, bien entendu. Mais tout ça, hop, c'est passé à la trappe. Ça n'existe plus. On juge du présent. On estime que les codes culturels qui sont les nôtres aujourd'hui sont des codes absolument universels qui doivent valoir pour le monde entier, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et c'est vrai pour la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai pour l'esclavage, c'est vrai pour une telle chose. Et c'est à partir de ces codes culturels qui sont les nôtres aujourd'hui qu'on doit absolument rejuger, repenser et dire ce que le passé a été. Là, nous sommes hors de l'histoire complètement. Mais c'est ce que la mémoire fait. Parce que la mémoire, justement, se sert des codes culturels qui sont présents. La mémoire n'est pas présence du passé, comme je l'ai lu dans un manuel du secondaire. La mémoire, elle est usage du passé au présent. C'est tout à fait différent. Et moi, je trouve qu'on ne peut pas parler de la mémoire si on ne parle pas des usages de la mémoire. Ce sont des mots qui, pour moi, sont complètement liés indissolublement entre eux. Présent du passé, c'est... Évidemment, présent du passé, mais c'est usage du passé, et je dirais même souvent instrumentalisation du passé. Bon, donc, ça c'est... Alors, il y a toute cette conceptualisation, reconceptualisation nécessaire, culture du double, stratégie de contournement, etc. Je vais très vite maintenant, parce qu'on me fait signe qu'il faut que j'aille très vite. Bon, bien entendu, on ne peut pas juger en bloc tous ces phénomènes, il faut accepter d'articuler le singulier et le collectif. Alors, je reprends un terme qui n'est pas de moi, qui est d'Anna Arendt. Elle parle dans ce ouvrage de ce qu'elle appelle le surcroît de sens. Et on voit très bien à propos, par exemple, des comportements collectifs, que bien sûr, il y a ces millions de gestes anonymes dont je parlais tout à l'heure, qui en soi ne font pas des gens qui les pratiquent des résistants. Mais si on sort de la singularité et si on voit au niveau collectif l'ensemble de la multitude de tous ces petits gestes, eh bien, l'expression collective de ces petits gestes donne un surcroît de sens qui montre à ce moment-là qu'il y a eu effectivement, dans une société, une tendance soit vers le consentement, soit vers le refus. Donc, ce passage du singulier vers le collectif, qui est un grand problème que les historiens connaissent bien, et qui, je prends l'exemple simple, les tombes qui sont fleuries, par exemple, y compris chez les Bretons, alors ce sont des aviateurs anglais qui viennent de leur envoyer des bombes sur la figure, le fait que dans les enterrements de résistants, ou y compris des résistants étrangers, il y a une foule qui est là, qui est présente dans le silence complet, tous ces gestes-là dont Philippe Burin ne dit pas un seul mot, et qui sont multiples, qui sont quand même des signes révélateurs de la manière dont le corps social réagit à un certain moment à la crise à laquelle il est confronté. Donc ne pas juger en bloc, mais prendre en compte absolument toutes ces pratiques. Bon, ensuite, faire apparaître les évolutions, bien entendu. Alors je passe. Sur un plan un peu plus... J'avais 36 choses encore à dire. Sur un plan général, je voudrais... je l'ai dit tout à l'heure, faire très attention donc à l'usage des mots, l'usage de résistentialisme, l'usage d'épuration sauvage, l'usage de guerre civile. Par exemple, tous les historiens dont j'ai parlé de façon discrète tout à l'heure, qui essaient de jouer dans le sens donc, de cette société française coupable. Je schématise trop là, en fait, tant pis je le fais parce que je suis obligé. Eh bien, sont des gens, par exemple, qui disaient la France a vécu un état de guerre civile. Or, c'est archi fou. Enfin, il y a eu, bien sûr, des affrontements franco-français. Mais en aucun cas, c'est une guerre civile. On ne peut pas dire que c'est une guerre civile. Et au contraire, moi, je dis vraiment l'inverse. Je dis qu'au contraire, au moment de la libération, enfin, on a évité la guerre civile. Et c'est le pouvoir de la résistance du PRF qui a évité la guerre. Le pays était au bord de la guerre civile, effectivement. Mais il n'y a pas eu guerre civile en France. Enfin, je crois que c'est une chose, en fait, que je me permets de dire. Bon, je voudrais dire aussi que cette tendance à la culpabilisation, donc, et surtout à la globalisation, a des effets pervers absolument considérables. Historiquement parlant, j'en donne deux ou trois simplement. On crée à partir de là des fausses centralités, c'est-à-dire l'idée que l'histoire s'est faite autour d'un certain nombre d'éléments centraux. Exemple, les persécutions antisémites de Vichy, dont il ne s'agit absolument pas, bien sûr, il est important, mais laisser croire que c'est à partir uniquement de la question antisémite que toute l'histoire de Vichy s'organise, eh bien, c'est une reconstruction de mémoire. Et c'est triste à dire, mais c'est ainsi. Au contraire, on se rend compte que, malheureusement, pour les Juifs, bien entendu, eh bien, c'était complètement second. Donc, on reconstruit les choses autour de centralités qui sont complètement fausses. Ensuite, il y a tous ce problème de glissement qui me semble assez grave entre la différenciation des victimes, qui est absolument nécessaire. Tout le monde sait, bien entendu, qu'il ne s'agit pas de comparer ce qu'a pu être le sort des Juifs à Auschwitz avec le sort des déportés résistants à Buchenwald. Mais le problème, c'est que très souvent, on le voit dans la mémoire, on passe de la différenciation nécessaire à la hiérarchisation des victimes. Et moi, je suis très... Mais c'est fini. Bon, d'accord ? Je suis très perplexe sur la hiérarchisation de la souffrance. Qui peut dire que une souffrance serait supérieure à une autre si on se replace au niveau de la singularité et comment ne pas le faire ? Dernière chose enfin, c'est que cette tendance-là a amené des grands historiens, et le plus grand de tous, dont on nous dit qu'il est le plus grand de tous, donc à vouloir minimiser considérablement, donc on peut le dire en gros, le poids de l'occupation. Et ça, c'est un phénomène constant. Et j'ai amené ici, bon, parce que je l'ai dit, et là-dessus je me sens tout à fait à l'aise, bon, c'est ce livre que vous connaissez sans doute tous, la fameuse phrase de Paxton, c'est l'édition de 2005. Dans ce livre, personne ne semble l'avoir vu. La première fois où je l'ai vu, j'étais un jour très, 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 très en colère. J'étais agacé par des collègues dont je voyais la visible mauvaise foi. Paxton, dans son livre, donc, dit que les Français, jusqu'en 1943, et personne de, beaucoup de gens ne semblent pas l'avoir lu, visiblement, il n'y a eu en France que 40 000 soldats allemands. Je dis bien 40 000 soldats allemands. Et il dit en plus, ils étaient vieux, etc. Donc, et simplement, après 1943, que des forces nouvelles sont arrivées, mais qu'elles ont été placées sur les côtes. Bon, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Enfin, on sait très bien que les effectifs de l'armée d'occupation en France, par exemple, en 1944, on est à plus d'1 500 000 soldats allemands. Donc, 40 000. Ce chiffre a été, il est encore, je répète, dans l'édition de 2005, pages 11 et 12, pour le redire. J'en parle de façon libre parce que moi j'ai des problèmes avec Paxton sur l'opinion, puisque je pense qu'il s'est planté, je m'en suis expliqué, c'est un débat tout à fait correct entre lui et moi, mais Paxton et la Boris, c'est bien sûr, enfin bon, David et Goliath, hein, c'est bien évident. Bon, mais en même temps, je n'ai pas voulu relever ça, parce que je me suis dit, les gens vont dire, ça y est, la Boris prend au sérieux, il veut absolument... Alors, avec Buren d'abord, avec Paxton maintenant, ça commence à bien faire. Bon, et je suis allé voir Vinok, parce que moi aussi j'ai sorti... deux petits livres au seuil dans cette même collection. Et j'ai dit à Michel, écoute, Michel, c'est pas possible. Il faut que tu vois Paxton, que tu lui dis qu'il ne laisse pas une ânerie pareille, parce que c'est une ânerie considérable, vraiment considérable, énorme. Eh bien, c'est encore là. Et mes chers petits copains, avec dont je parlais tout à l'heure, je leur ai dit à tous, je me dis, dites-le, personne, silence, c'est la vache sacrée. Et même s'il a dit une énorme connerie, parce que, excusez-moi, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est vrai. Et en plus, mais c'est une bêtise qui a un sens, quand même. Parce que, il ajoute ensuite, on comprend d'autant moins que ce pays, donc, qui n'était contrôlé que par des vieux soldats allemands très peu nombreux, n'ait pas pu manifester d'une façon, etc. Voilà. Donc, vous voyez tous ces effets pervers de la mémoire. Et j'avais encore, un dernier mot quelconque, je l'ai dit à monsieur Poncet hier. Autant je suis d'accord avec l'idée d'introduire la mémoire dans l'enseignement des classes terminales, parce que ça me semble effectivement un objet neuf, intéressant, de réflexion, mais autant, me semble-t-il, il serait indispensable que ce travail que vous entreprenez tous sur la mémoire soit précédé quand même d'une réflexion, on va dire, théorique un peu sur ce qu'est cette mémoire. On ne peut pas laisser croire qu'elle a un statut équivalent à ce qu'est l'enseignement classique de l'histoire. La mémoire, c'est du prêt-à-penser. Et nous, on fait le contraire du prêt-à-penser. Et donc, il me semble qu'il serait indispensable vraiment de dire que la mémoire, quand on en parle, il faut immédiatement associer à l'idée de mémoire l'idée de ses usages et l'idée de ses fonctions. À quoi sert-elle? Qui s'en sert? Pourquoi? Voilà. Excusez-moi d'avoir été trop long.